vous propose donc qu'on écoute à présent la communication de Simon Saint-Onge, qu'on fasse une discussion et qu'on fasse la pause avant la troisième intervention, parce que là, une troisième sans pause, ce ne serait pas possible. Hein. Alors, je vais commencer par te présenter, Simon.
Ouais. Et je peux commencer par prendre un verre d'eau.
Ah bah ouais. Je crois que c'est pas absolument interdit. Bon. Nous n'avons pas l'intention de t'assécher.
Dès le départ.
Dès le départ. Alors Simon est aussi en co-tutelle de thèse. Alors lui avec Tiffen Samoyau à Paris 8 et Jean-François Hamel à l'Université du Québec à Montréal. Donc il pense achever sa thèse en 2011 ou 2012.
Certainement,
oui. Voilà. Il travaille sur littérature, communauté, et le troisième terme,
histoire.
C'est histoire. Voilà, histoire, littérature et communauté. Et justement, la communication qu'il nous propose va se centrer sur un ouvrage d'Ingrid Vogel à l'intérieur de Lisbonne Dernière Marche qui s'appelle « Quelques détails sur l'âme des faussaires ». Et avec ce sous-titre, l'antithèse commune de la communauté. Donc, voilà.
Merci. La figure de la communauté humaine, avec ses masques aussi nombreux que polytraumatisés, est la tête d'affiche d'une tragédie exacerbée par le continuum historique, qui est au final la scène sur laquelle on voudrait faire apparaître vaincus et vainqueurs, oubliés, commémorés, maîtres et esclaves, bref, les couples dialectiques qui articulaient la marche de l'histoire, immobilisé depuis un moment dans un véritable bourbier. On rejoint ici l'une des illustrations du tracé historique tel qu'il se présente dans Lisbonne Dernière Marge. Je cite « Un sentier intérieur d'éclaboussures, de sang et de cochonneries, un paysage où la lucidité et le rationnel sont simplement fantômes. Il s'agit du sentier de l'élite des cochons occidentaux qui cheminent d'une guerre à une autre, d'une bauge à une autre, le long des barrières mentales communes aux uns et aux autres. » On aurait tort de relever dans cette citation qu'une violente critique adressée au mouvement dialectique de l'anthropologie historique de la raison, car on retrouve dans ce réquisitoire l'idée du partage de ce qui est résolument impartageable, ou en d'autres mots, le désastre d'un espace communiel qui n'offre aucune condition de possibilité à la communauté, mais un espace qu'il faut néanmoins reconnaître comme ce qui structure une condition commune selon le souhait d'Ingrid Vogel. Je cite cette dernière. J'aimerais que soit établie cette similitude entre tous, entre justiciers anarchistes et justiciers en uniforme, entre tous les membres actifs et passifs du bourbeux paysage occidental, entre camarades cauchemardeux essayant de surnager hors du fumier ou de nettoyer la terre puante, mais eux-mêmes créatures du fumier militaro-industriel, et la similitude entre les puissants invisibles et leurs esclaves lobotomisés, cette identité de pensée et de destin due à une origine commune et à un même purin cérébral et immodifiable. Cette incrimination absolue à laquelle n'échappe pas le lecteur, puisque bon, on nous dit que le lecteur est lui-même crotté jusqu'aux yeux de boue et de purin. Donc cette incrimination n'a peut-être de comparable que l'intitulé d'un ouvrage de Gunther Anders, « Nous, fils d'Eichmann ». Comme ce dernier, Ingrid fait bien éprouver le caractère infiniment insoutenable d'un héritage qui vient tous, sans exception, nous adjoindre dans la débâcle de l'histoire, époque de la dernière révolution industrielle, où l'état technico-totalitaire détruit le « nous » et le monde commun à l'horizon duquel rien ne chante plus le sensus communiste, sinon le chant du coq. Dans ce « nous » composite et agonisant, donc à l'intérieur de ce tissu communiel enveloppant notre être ensemble à la manière d'une tunique de Nézos, résiste, avec adversité, le dernier couple synthétisant le visage d'une communauté, où l'altérité n'agirait pas comme un repoussoir, mais bien comme la frontière sur laquelle pourrait s'éprouver l'assomption communielle. Il s'agit des amants, ces amants que sont Kurt, policier au BKA, et Ingrid Vogel, ancienne membre active de la RAF, de la fraction Armée Rouge. Ensemble, Kurt et Ingrid transcendent tout autre couple dialectique, tel que le laisse entendre le narrateur de Lisbonne Dernière Marge. Je cite un court passage. Après s'être rendu compte qu'elle, Ingrid, dormait avec un des pires responsables de l'État totalitaire, elle avait vacillé. Elle aurait pu massacrer Kurt pendant son sommeil, mais quelque chose l'avait paralysé, un coup plus dévastateur encore que la défaite de la guérilla, quelque chose s'était dressé sur son chemin et l'avait empêché d'agir. Non pas Kurt, mais son amour pour Kurt. toute une tradition, avec à son origine Georges Bataille, a promulgué les amants au rang d'authentiques communautés. Cette tradition a notamment interprété l'amour, ou le monde vrai des amants, selon la formule bataillienne, en tant que forme de l'intimité réussie et consommée par deux hétérogénéités qui touchent à leur souveraineté, non pas au moyen de l'autre, mais à travers l'autre, dans l'extase qui fait prouver le désir de l'autre à l'extérieur de soi, ouvrant ainsi à la violence infinie de la déchirure de soi sur l'autre. L'une des figures principales de cette tradition, c'est-à-dire Jean-Luc Nancy, proposait que l'inscription littéraire de la communauté, ce qu'il nommait aussi le communisme littéraire, soit le partage de la souveraineté que les amants, dans leur passion, ne perdent pas mais exposent au dehors. Ils l'exposent, dit-il, d'abord à eux-mêmes, à leurs êtres singuliers, mais en tant que tels, ces êtres comparaissent déjà alors même que les amants s'étreignent dans et devant une communauté entière. L'inscription littéraire de la communauté se profilerait dans le partage de voix s'exposant comme des singularités irréductibles les unes par rapport aux autres. À l'instar des amants vivant l'extase de leur amour, ces voix se tiendraient à leurs limites et elles s'offriraient de ce fait comme autant de blessures ouvertes sur un sens commun, à penser comme l'espace de la communication. Pour résumer, on pourrait dire que le monde des amants donne la mesure à la communauté qui vient, tandis que cette dernière serait préfigurée, parce que Nancy nomme le communisme littéraire. Selon ces catégories, pourrait-on avancer que Kurt et Ingrid exposent le monde vrai des amants à une collectivité se dissolvant aux franges de l'histoire. Dans les premières pages de Lisbonne dernière marge, le couple apparaît dans une vitrine, non pas en habit de justicier officiel et de justicier anarchiste, mais comme un homme et une femme qui s'étreignent. Les amants s'unissent dans la nudité du réel, roucoulent doucement et se serrent l'un contre l'autre, entraînant les catégories qui découpent le social à s'envoler pour un moment. Toutefois, ce monde dans lequel les amants sont souverains est rattrapé par l'implacabilité de l'absurdité du social, qui est pour ainsi dire réel qu'aussi longtemps que perdure son cauchemar. Ce sont les principes et les objectifs des chrétiens démocrates et des sociodémocrates qui se retrouvent au banc des accusés des fausses apparences, en ce sens où ils génèrent une civilisation monstrueuse, une société truquée, assombrie en tout lieu par de fausses valeurs. La vaste entreprise de systématisation opérée par le totalitarisme de la social-démocratie reconduit même l'histoire à un temps vide ne pouvant être comblé et où rien n'adhère sinon le tic-tac paisible de l'horloge. Le temps historique est pour ainsi dire détemporalisé, c'est-à-dire replié sur lui-même, sans horizon. Pareil à la communauté humaine, l'histoire est dépouillée d'advenu comme d'advenir. D'ailleurs, le fait que la Deuxième Guerre mondiale n'ait même pas la consistance d'un souvenir dans Lisbonne dernière marge est parfaitement cohérent, car comme dit Anders d'une pièce de Beckett, là où il n'y a pas de temps, il n'y a pas non plus de souvenir. L'agora est donc le théâtre, vaguement immobile, à l'intérieur duquel ne se célèbre que la liquidation répétée de la communauté humaine, et ce sont les hommes eux-mêmes qui travaillent, dans ce temps suspendu mais aussi incapable de permanence, à l'anéantissement de l'espace communiel. Et pas seulement les organisateurs officiels de l'oppression, mais également la population et la fibre prolétaire, à qui revient le mérite de préparer le banquet pour la victoire de cette nouvelle forme de totalitarisme pire que les autres. Car, apprend-on, la fibre prolétaire ne se réveille pas et continue à ruisseler de boue ordurière et à exhaler d'intenses bouffées de viande gâtée, une odeur aussitôt renvoyée par l'haleine fétide des populations. Les ramifications du monde dites officielles tendent à absolutiser tous les champs du réel en désamorçant l'ensemble des articulations antagoniques par un programme d'homogénéisation qui traque les contradictions à l'œuvre, les réconcilier, et ce jusque dans l'histoire et la culture. Ce par un programme maquillant donc la vérité historique et utilisant la culture pour couler sur la pensée une poix épaisse. Alors, à l'exemple des autres totalitarismes qui le précèdent dans l'histoire, la social-démocratie décrite par Ingrid a bien un projet communiel. L'immanence pure, l'identité avec elle-même n'ayant pour résultat que le suicide de la communauté, chose que cette dernière accomplit au moment où elle pense se réaliser. Toutefois, Kurt et Ingrid se tiennent en retrait d'un tel projet. D'une part parce qu'ils se soustraient manifestement à la synthèse dialectique fallacieuse en maintenant anachroniquement l'axiologie des idéologies sociopolitiques. D'autre part parce que les amants, dans leur hétérogénéité fondamentale, ne peuvent comparaître à l'intérieur de cet agencement social qui n'articule plus des singularités réductibles, mais des ressemblances qui répètent inlassablement le processus même de leur homogénéisation, donc l'affirmation de la souveraineté d'un système où l'homme est fantôme. L'espace public n'accueille en rien la souveraineté des amants, de telle sorte que leur communauté doit se retrancher comme un monde animal, un territoire étranger, ce qui favorise seulement aucun rapport d'exposition avec la collectivité. Par exemple, on apprend que la pension, c'est-à-dire l'endroit où Kurt et Ingrid se cachent dans Lisbonne, est leur ultime tanière commune où ils peuvent librement parler et s'aimer. Ensuite, lorsqu'ils ressortent, ils ressortent meurtris d'insatisfaction refoulée et de désarroi refoulé. Faute de pouvoir jouer le jeu de la comparution et du partage de leur souveraineté, mais pour que leur monde demeure vrai par rapport à une collectivité mensongère et aveugle à son propre désastre, Kurt et Ingrid sont contraints de se donner la mort. Cependant, ce suicide, évoqué périodiquement au cours de la narration, ne semble pas déterminé par une volonté de rendre immanent, jusque dans une fin communément partagée, l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. L'acte suicidaire renvoie si peu à la figure mythico-littéraire des amants qui consument leur amour en fusionnant dans l'anéantissement qu'il rappelle plutôt un aphorisme adornien dans lequel l'impossibilité de réaliser le genre humain est identifiée comme étant à l'origine du suicide au XXe siècle. Je cite brièvement Adorno. Ce qu'on appelait à la fin du 19e siècle « mourir en beauté », c'est limité au souhait d'abréger l'avilissement infini de l'existence ainsi que la douleur infinie de l'agonie dans un monde où depuis longtemps il y a bien pire à craindre que la mort. La fin objective de l'idéal humaniste ne veut pas dire autre chose. Elle signifie que l'individu, en tant qu'individu, en tant que spécimen de l'espèce humaine, a perdu l'autonomie grâce à laquelle il pourrait réaliser le genre humain. Ingrid, dont le souhait est qu'il ne reste plus qu'un champ de cendres de la civilisation, invite d'ailleurs à méditer sur cette perte d'autonomie dont fait état Adorno et qui force au suicide ceux qui voudraient mettre en place les conditions de possibilité de la communauté humaine. Elle pose par exemple cette question « Métamorphosé en torche vivante, l'incendiaire peut-il cesser d'être incendiaire ?» Mais avant ce suicide probable et pendant que l'humanité se dissout en dehors de toute durée, Ingrid rédige une mise en scène la mettant en vedette avec son aimable dog. Un passe-temps pour ne pas mourir, comme elle le dit. Alors que le temps historique ne passe plus, l'inscription littéraire du monde des amants fait de son côté refluer littérairement la temporalité. Le monde vrai des amants devient une antithèse commune de la communauté. On peut désigner cette littérature de cette façon parce qu'elle est composée de ressemblances négatives avec le commun de l'humanité, des ressemblances s'offrant comme autant d'effractions défiguratives. Traitant de données universelles, cette œuvre vise à ébranler les valeurs fondamentales sur lesquelles la société fait reposer son sens du réel. Sens de l'espace, du temps historique, de la nature biologique de l'homme, de l'organisation sociale humaine. La matière scripturale projette des hallucinations chaotiques de temps et d'espace, des déchirures chaotiques. Elle se déverse comme une boue rugissante et chaude surgit des cavernes les moins explorées de la société. Un flux bouleversant phrasé au rythme d'une folie tourbillonnaire, tissé de visions difficiles à supporter, tissé de paradoxes, d'hallucinations refoulées et de violences, tissé avec les hurlements d'une interprétation terroriste et sans lumière de l'univers réel. Il s'agit de l'expression agonique d'une rupture avec cette collectivité qui anéantit le principe même de l'être ensemble. L'inscription littéraire du monde des amants renverse l'idée d'une comparution qui aurait comme objectif de partager, dans l'ordre de la communication, la souveraineté des amants. Quelques détails sur l'âme des faussaires est l'expression, en fait, d'une violente révolte assassine et clandestine qui arrache au monde officiel la communauté des amants et la relance dans la pure négativité d'une écriture cryptographique où se rythme une chronicité par laquelle les modalités temporelles de l'histoire éclatent. Le caractère antithétique de l'inscription littéraire du monde des amants s'éprouve notamment dans ce contraste qui l'oppose à la temporalité de la social-démocratie, qui est fixée de son côté entre deux tic-tacs où ne résonne aucunement le kairos de la catastrophe, mais seulement une vieille pendule tyrolienne réchappée du désastre et qui, par sa présence et ses piaillements, démontre que le désastre n'a pas eu lieu. On aurait le goût de dire de concert avec Bataille qu'avec la révolte, qui se manifeste notamment par l'extase amoureuse, l'oppression s'écroule dans le fracas du temps, que la catastrophe est ce par quoi un horizon nocturne est embrasé, ce pourquoi l'existence déchirée est entrée en transe, quelle est la révolution, quel est le temps délivré de toute chaîne et changement pur, quel est squelette sorti d'un cadavre comme d'un cocon et vivant sadiquement l'existence irréelle de la mort. Toutefois, seul le projet littéraire d'Ingrid permet aux amants de survivre dans cet autre régime temporel, de s'arracher à l'histoire et de consommer l'assomption communielle. On constate notamment que le passage du monde vrai des amants jusqu'à l'antithèse de la communauté humaine est la seule avenue vers l'assomption communielle à la toute fin de Lisbonne dernière marge. Lorsque Kurt décide de suivre Ingrid dans ce qu'il nomme le fin fond du cercle pirate de la passion précédant la mort, le nom des deux amants varie selon les hétéronymes utilisés par Ingrid dans son œuvre, mais cette fois-ci, à l'intérieur de cette chambre réelle qui délimite le monde vrai des amants. Le policier je cite, s'arrache à toutes les pesanteurs solennelles sur lesquelles s'était bâtie sa vie et rompt avec le système de cautèle et de perfidie, afin d'entrer dans les marges de cette communauté du retrait, c'est-à-dire à l'intérieur de ce cercle contigu au néant, véritable hétérotopie où temps et espace implosent en une densité spatio-temporelle n'ayant de mesure que le désastre. La chaga du retour d'Abdallah, que l'on retrouve dans l'œuvre cryptée d'Ingrid Vogel, préfigurait ces retrouvailles par la modélisation du temps extatique de la catastrophe. Car ce texte montre que l'on peut écraser le temps à l'intérieur de sa conscience, broyer le temps au point d'en extraire seulement des moments fugitifs, et habiter l'instant punctiforme issu de la conjugaison des éclats de la temporalité. La pulsation de l'instantanéité se dilate et prend finalement la forme d'une demeure où des amants, à savoir Abdallah et Leila, qui étaient originairement séparés par le présent, viennent communier dans une architectonique temporelle magnifiée en terre d'asile. Je cite un court passage. « Vous rôdiez en silence dans la magnifique seconde de votre éternité, une magnifique seconde extirpée à l'achèvement du temps dans le présent et déployée telle une mystérieuse frontière des possibles. » C'est d'ailleurs dans cette densité temporelle qu'Abdallah et Leila réinventent un langage et des gestes. On reconnaît dans Abdallah et Leila le couple formé par Kurt et Ingrid, mais comme l'indique le commentaire critique contenu dans la Chaga, Abdallah, personnage désincarné phallos, représente l'humanité à la veille de la Renaissance, l'humanité tout juste sortie des abysses de la guerre noire et encore hébétée sous le plomb de ses cauchemars. Alors, lorsque l'auteur de ce texte annonce que l'aube légendaire se lèverait, même métamorphosée, méconnaissable, que les deux amants s'étreindraient dans un souffle, à l'issue du présent déficient, autour duquel l'univers stagne cataleptique, ce sont les restes de la communauté humaine qui sont aussi conviés à se reconnaître dans les retrouvailles des amants, à communier donc dans la densité temporelle où se logent Abdallah et Leila. C'est tout comme si l'inscription littéraire des amants pouvait racheter non pas la communauté humaine, mais les reliquats de l'humanité, afin de les reconduire jusqu'à l'extérieur de l'embâcle historique, dans le cercle, je cite, situé à proximité du néant où Kurt et Ingrid se rejoignent, ce hors-lieu indifférent, tant à la mort qu'à la vie, indifférent au passé, au présent et à l'avenir, aussi indifférent au tissu de l'espace et du temps que peut l'être un engourdissement rêveur au milieu des flammes. Les restes d'humanité qui s'échappent pour ainsi dire des crevasses de l'espace communiel sont notamment figurés dans une autre chaga par l'image d'un cadavre qui trottine sous les pluies de l'après-guerre, un mort vivant dont on ne peut même plus dire qu'il s'agit d'une créature contemporaine, tant son existence est l'expression même de la disjonction d'un temps se délivrant de celui qui stagne dans le présent étale. Alors, si cette communauté du retrait se délivre de l'histoire et de l'univers réel, son mouvement transcendant ne peut s'effectuer que vers le bas, dans un déclassement général, comme si l'effondrement de l'espace communiel ouvrait sur tout un réseau de canalisation prêt à récupérer les épanchements issus de la communauté liquidée. On s'approche ici de la pensée de Roberto Esposito qui affirmait « Non seulement la communauté n'est pas identique à la res publica, à la chose commune, mais elle est bien plutôt le trou dans lequel celle-ci risque continuellement de glisser, c'est-à-dire une faille qui cerne et transperce le social. » La présentation du monde des amants au début du roman préfigurait ce type de déversement de l'être ensemble dans les crevasses de l'espace communiel. Je cite un court passage. Leur reflet à Ingrid et à Kurt s'encastrait l'un dans l'autre parmi les robinets nickelés, les bagues de cuivre et les joints de caoutchouc dessinant d'artistiques rosaces et les pommes de douche et les tuyaux annelés et les assortiments de clés anglaises. Les amants tombent, pour ainsi dire, de cet Éden de la plomberie pour venir se disloquer dans une œuvre qui réagence leur monde littérairement en une multitude de réseaux sous-communicants, comme si l'œuvre chiffrée d'Ingrid était associée à ce trousseau de clés anglaises, mais que ces clés ne servaient pas seulement à démanteler la communauté des amants, mais aussi à la recanaliser sous la surface craquelée de l'espace communiel, bien en deçà d'un partage communicatif avec le reste de la collectivité et bien au-dessous de la temporalité historique. Ingrid fictionnalise d'ailleurs le caractère foncièrement antithétique de son projet littéraire en termes de littérature des poubelles, une littérature inférieure qu'elle oppose à la littérature officielle, mais qui survit à l'intérieur des organes de presse de cette dernière, marquant de cette façon la nature résiduelle et le caractère subversif de son projet littéraire. Je cite un court passage. À côté de la littérature officielle humaniste, autre chose avait existé, avait utilisé des mots, écrit, diffusé des livres, autre chose avait survécu dans les souterrains de la culture. Cette autre chose s'illustrait au fond d'insaisissables réseaux et filières, véritables poubelles de la Renaissance, hors du contrôle intellectuel de la société et hors de son contrôle moral. Du côté de la temporalité, dans son rapport avec l'inscription littéraire du monde des amants, on a un exemple explicite de ce que Pierre Ouellette nommait l'évacuation de l'histoire en poétique. Une autre temporalité qui apparaît en épiphanie du bas, dans le passage plus ou moins violent et souterrain du temps historique vers un autre régime de chronicité, tel que le donne à comprendre l'isomorphisme troublant entre les canaux d'évacuation ou d'éjection, sous-jacent au paysage fissuré, et les modes d'énonciation de profération humaine qui passent par une faille et qui s'écoulent comme des égouts. On ose ajouter que l'évacuation de l'histoire a partie liée avec les évacués de l'espace communiel, qui forment peut-être un « nous », mais seulement si l'on reconnaît qu'ils sont aussi impropres à l'humanité que le temps extatique de la catastrophe est étranger au temps tyrannique de la social-démocratie. Ce nous n'appartient plus à la collectivité. Il s'agit d'une autre race qui demeure commune à l'humanité seulement par le partage d'une même conscience avec la collectivité manipulée par les organisateurs de l'oppression, comme le laissent entendre quelques détails sur l'âme des faussaires. C'est un bref passage. À l'intérieur de l'humanité renaissante coexistaient au moins deux races distinctes, avec deux histoires distinctes, deux cultures distinctes, mais une seule conscience. Le nous résiduel entre dans la différence communielle, entre les marges de la fiction plurielle du monde des amants. Au même titre que ces derniers, ce pronom a comme référence l'impropriété de la communauté humaine, une impropriété qui s'étend jusqu'à son mode temporel. Ainsi, on peut adopter l'idée d'Esposito qui veut que la communauté ne soit rien d'autre que ce que l'histoire a nié, le fond non historique dont l'histoire a jailli sous forme de nécessaire trahison, puisque le monde des amants retourne précisément à un fond trahi par l'histoire, un fleuve sous-historique dont le sens suit le cours d'un inachèvement occulte. La signification d'une telle communauté ne répond donc en rien à celui que Nancy attribuait à la réalisation communielle et surtout à son échec. Nancy disait « Le sens de la communauté est nécessairement celui d'une fin, but et achèvement, fin de l'histoire, solution finale, humanité accomplie. Seule la fin est autosuffisante. » Et c'est ici que la communauté s'achève en échec persistant ou en catastrophe terrifiante. L'amour, l'état, l'histoire n'ont de vérité que dans la mise à mort. Qu'il s'agisse de l'inscription littéraire des amants ou de ce nous obsolète qui l'accompagne, c'est toujours une expression par laquelle la fin déborde jusqu'au flux d'un inaccomplissement productif par catastrophisme, donnant donc à lire la catastrophe comme une sortie de l'histoire et une évasion de l'espace communiel. En somme, quelques détails sur l'âme des faussaires renversent l'idée d'un communisme littéraire d'un partage de la souveraineté que les amants exposeraient au dehors et qui s'exprimerait sur le mode de l'interruption. Si cette œuvre démasque la figure de la communauté humaine avec une lucide gravité, c'est précisément en ayant comme point de départ l'impossibilité de la comparution des amants, et de cette impossibilité naît une œuvre dans laquelle se joue le procès même de la communication, c'est-à-dire le procès du fondement de la communauté et de son partage. Certes, les voix du post-exotisme qui habitent l'œuvre d'Ingrid émanent de l'inscription littéraire du monde des amants et entraînent dans leur sillage celle des reliquats de l'humanité. En revanche, ces voix ne se tiennent pas sur leurs limites, elles n'exposent pas le désœuvrement de la communauté et n'invitent en rien à redéfinir l'histoire comme un temps ouvert à l'arrivée d'un « nous ». Plutôt que de se faire l'étalon ou le reflet d'une communauté à venir, les voix de quelques détails sur l'âme des faussaires constituent la limite même sur laquelle s'épuise la communication, et elles habitent l'altérité temporelle qui échappe au temps historique. De ce fait, ces voix peuvent phraser la différence communielle en livrant une synthèse disjonctive dans laquelle la communauté humaine n'est pas exclue, mais passée au filtre de l'impropriété. Plus encore, ces voix sont la survivance de cette impropriété au cœur même d'une humanité incapable de reconnaître son propre désastre, ou pour reprendre le titre d'une chaga, d'une collectivité inapte à se mirer dans le miroir du cadavre. Quelques détails sur l'âme des faussaires nous informent ainsi que la communauté ne peut se prononcer que sous la forme d'une hérésie envers le dictat du « nous », comme si elle ne pouvait pas apparaître sous la forme d'un « nous autre », mais bien en tant que l'autre de ces « nous » qui cherchent à imposer leur immanence dans l'ordre historique. Son partage est entièrement déterminé par ce qui est par essence le moins communément partageable, c'est-à-dire une impropriété qui s'ouvre, pareil à une blessure béante, sur l'impossibilité communielle. Et je citerai pour terminer... un court extrait de Lisbonne dernière marge, ou plus de peau de quelques détails sur l'âme des faussaires. Au cœur de la ville, du monde, tu t'appelles Catalina Raspe, là où saigne une blessure en plein cœur. Voilà.
Bien, une autre proposition pour... On a eu un essai de redéfinition de l'utopie avec Antonin, un essai de redéfinition de la communauté aussi dans un sens qui me paraît dialoguer avec la communication précédente. Donc on va pouvoir mener une discussion à propos de...
Ouais, bien sûr.
Voilà. Donc je vous invite à prendre la parole. Antonin ? Antonin Vizor ?
C'est ça, simplement ça me faisait penser à ce que tu disais sur cette communauté des amants, sur leur rapport à, disons, au monde dans lequel elle est à la fois rejetée, isolée. Ça me faisait penser à une image qu'emploie Arendt du couple comme. Il y a plusieurs images, mais une de ces images, c'est le couple comme oasis au milieu du désert. Et qui n'arrive pas à. Qui laisse le désert avancer. Et puis c'est une réflexion, dans le fond, politique sur la dimension politique de l'amour. Il me semble que c'est bien ça qui est. Ou du couple, ou de la communauté érotique. Il me semble que c'est ça qui est en jeu dans ce que. Les propositions que tu faisais. Puis je ne sais pas si ce que te suggère cette image que tu connais peut-être de ces oasis et du désert qui continue à avancer, c'est-à-dire que ce n'est pas une forme de résistance.
Oui, tout à fait. Dans le fond, on peut lier cette image à celle que développait Blanchot après c'était la communauté inavouable, ou en fait la communauté des amants, plutôt son désastre, est voué en quelque sorte à la mort et à la solitude. Mais je pense que qu'est-ce que. Rien à faire, quelques détails sur l'âme des poussières, ou plutôt l'œuvre d'Ingrid, c'est d'ouvrir en fait une brèche avant même justement cette mort ou encore cette totale solitude. Ce qui se produit dans l'extase, en fait, dans cette densité temporelle qui est le temps de la catastrophe, une catastrophe qui n'est pas occasionnée tellement par eux, mais qui est, tout, tu sais, qui est déjà en fait présente. Depuis un moment, finalement, Ingrid, je crois, parvient à lever le voile, en quelque sorte, sur un mensonge sociétal et à rallier à l'intérieur de sa communauté, donc à éprouver une forme d'assomption communielle avec Kurt. On rejoint une dimension politique de la communauté, ou en tout cas du moins d'une certaine pensée de la communauté, en ce sens où leur communication ouvre littéralement en fait le temps à une autre possibilité communielle que celle qui est imposée en quelque sorte par les formes figées du sociétal.
Pierre Ouellet.
Oui, merci pour cette belle communication. J'entends des échos aussi des discussions qu'on a eues ce matin. Et dans ce cas-ci, de ces deux amants, on a aussi deux adversaires. Hein,
oui.
Un ennemi de classe, comme on disait autrefois, un révolutionnaire terroriste, un policier, de sorte que finalement il y a une réelle tension entre le désir érotique, disons, hein, le désir amoureux, et le statut de ces deux personnages. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas avoir quelque chose qui soit purement du lien ou du lien.
Ouais.
Cette brèche, cette séparation, cette espèce de faille.
Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, parce qu'apparemment on ne t'entend pas dans l'enregistrement.
Par conséquent, on n'a pas affaire au lien social au sens traditionnel du terme.
Non.
Le socius, c'est l'agrégat, encore une fois, tout ce qui est proche d'emblée. Alors qu'ici, on a quand même des éléments plutôt lointains, éloignés.
Polarisés, oui.
Avec un vide intermédiaire et qui évoque plutôt la notion de ligature que celle de lien. Hein, une ligature, ça permet de créer une blessure, hein, une cassure, une brisure. Et donc c'est quelque chose d'un peu plus complexe que le lien social au sens traditionnel, qui nous permet en général de définir ce qu'on appelle une communauté. Et bon, j'imagine que tu utilises le néologisme communiel plutôt que communautaire pour éviter de parler de ce lien ou de ce lien relié, alors que là, on a d'abord une séparation, un vide, et quelque chose comme une ligature qui vient rattacher ces éléments dispersés ou éloignés l'un de l'autre.
Ouais, tout à fait. Puis en plus, le terme communautaire est plutôt teinté, idéologiquement ou sinon péjorativement, de façon péjorative. Et pour poursuivre un peu sur ce que tu disais à propos de la ligature, je crois qu'avec la ligature, on a, plutôt qu'avec le lien, on a vraiment une idée d'une communication, une communication, oui, en termes de contagion ou en fait, il y a une possibilité ou un risque d'infection. Et c'est ce qui me semble vraiment, mais vraiment, en tout cas du moins, être crucial, parce que, bon, les échanges tout au long de Lisbonne Dernière Marge se jouent un peu, c'est au cœur de cet enjeu, en fait, où il y a cette polarité, où cette difficulté d'arriver, en fait, à un accord, jusqu'à la fin, en fait, où là... où les deux amants se retrouvent dans un souffle, d'ailleurs, qui est une forme de retrouvaille, finalement, des amants qui dépassent largement donc les enjeux sociaux et qui viennent complètement fusionner, pas fusionner tellement dans la mort, mais fusionner dans une extase qui transcende littéralement le temps, l'espace, qui s'enflamme en quelque sorte et qui donne à penser en fait la communication sous un tout autre modèle, en fait, une forme de communication qui ne serait pas de l'ordre du partage, mais qui procéderait pratiquement du crime et du suicide, et d'un suicide qui ferait en quelque sorte parler le langage des morts, ou la force de la vie envahissant la mort serait plus forte que la mort envahissant la vie, ce genre de structure, en fait.
Claire Calland.
C'était super, vraiment super, j'ai beaucoup apprécié, très riche évidemment, et en vous écoutant, je pensais tout simplement à Alberoni, ça m'est venu comme ça, je me suis dit, tiens, mais Alberoni nous dit que le couple, que les amants, quand ils se constituent en couple, ils font quoi? Ils font une révolution, à petite échelle.
Ouais, à petite échelle.
Voilà. Et donc, en finissant en plus sur cette question de la mort, de la vie, parce que bon, les amants chez Volodine, ça finit toujours quand même assez mal, hein, on va dire. On a eu beaucoup d'exemples, mais il y a aussi cette question de la femme qui revient sous d'autres formes.
Sous d'autres formes, oui.
C'est ce que je trouve moi très très beau. Et bref, en écoutant ça, je me disais, mais est-ce que finalement tout ne devient pas politique là-dedans, de révolution en révolution, à tous les niveaux, non, puisque les amants, c'est le plus petit
noyau
communautaire.
Oh, ben, je crois que oui, en fait, dès le départ, disons que c'est lancé déjà dans une perspective extrêmement politique, comme on disait, c'était extrêmement polarisé entre Kurt et Ingrid, parce que ce qui m'avait étonné d'ailleurs, c'est... on commence bien sûr à identifier au début de Lisbonne Dernière Marge les amants comme un policier et une anarchiste, mais peu de temps après, on les voit constamment en train de rouler, se serrer l'un contre l'autre. Ils voyagent, ils visitent, ils font même en quelque sorte du tourisme, ce qui détonne complètement avec la situation situation politique, puisque Ingrid est pourchassée par la police et tout. Et on a seulement cette échappée en fait du social par un autre, dans le fond, un autre mode politique. Qui se situe exactement à petite échelle, qui se poursuit dans une œuvre cryptée par un échange communicatif extrêmement, mais extrêmement riche que je pourrais pas ici développer très, très, très longuement sur la question, mais voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas la question de la poupée gigogne? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'on n'est pas dans une communauté de révolution? Ou quand il y a possibilité de couple, il y a révolution par rapport à la révolution de départ. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cet esprit de poupée gigonne.
Oui, je suis d'accord.
La possibilité que la révolution numéro 2 aboutisse à quelque chose.
Oui.
C'est un peu réducteur.
Je crois qu'il y a vraiment ce schéma narratif qu'on peut retrouver à l'intérieur du texte.
Mmh. Rien qu'avec
pas jouer les rassembleurs, mais il semble que
Jean-Pierre Vidal
de Meubius.
Ouais.
Oh, bah alors là, je ne pensais pas à un lien entre les deux communications à ce point-là, mais c'est parfait. Anne Roche a demandé la parole.
Bon, moi d'abord, merci, parce que sinon, j'ai trouvé que ce que tu avais présenté était extrêmement séduisant. Et en t'écoutant, je me suis posé plusieurs questions à des niveaux légèrement différents. D'une part, tout ce que tu dis de la communauté des amants, ça tient tout à fait la route. Et comme Pierre le rappelait tout à l'heure, c'est vrai que c'est un couple qui est en tension. Hein, courte, le policier et Ingrid la terroriste, mais cette tension, bon, on peut la faire remonter à Roméo et Juliette. C'est-à-dire que d'une certaine façon, un couple d'amants qui appartient à deux maisons différentes met en question les maisons en question, donc d'une certaine façon le lien social. Donc ça, je suis entièrement d'accord. Ma question n'est pas là. Quand tu as parlé surtout du texte, plutôt des textes écrits par Ingrid Forel. Et en particulier, tu as rappelé, je crois en commençant, le texte où elle montre cette espèce d'énorme équivalence entre social-démocratie, chrétien-démocrate et tout ça, et où tout est noyé dans une espèce de poids qui nivelle tout, et où effectivement il n'y a plus d'opposition. Et il me semble qu'il y a plusieurs niveaux dans ce qu'elle raconte. Ce passage-là, pour moi, c'est un peu l'équivalent du discours de Varane et de Boudenko dans Les Anges mineurs, avec la différence que là, c'est un discours où il n'y a plus de polarité, alors que chez Varadia Lodenko, c'est un discours bipolaire. Mais dans les deux cas, je crois que le discours est discrédité par ses formes même d'énonciation. C'est-à-dire que là, Ingrid, elle tient un discours à thèse. Or, dans tout le reste de son écriture, c'est justement, pour reprendre ce que dit un des commentateurs, c'est un style éclaté, rusé, pirate.
Ouais.
Ça veut dire que c'est un style qui est complètement multipolaire, et donc il me semble que là, il y a une contradiction, mais c'est... La contradiction, elle n'est pas de toi, elle est dans le texte. Mais il me semble qu'il y a une contradiction entre, d'une part, cette espèce de noyade dans une glue généralisée où tout est égal, hein, où du coup il n'y a plus de polarité du tout, et à côté de ça, un texte comme Le Montreur de Cochon, ou un texte comme l'histoire de la brigade des valeurs oniques, ça réintroduit des pôles, même s'ils sont compliqués. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
Oui, tout à fait.
Il y a vraiment cette espèce d'éclatement qui, je crois, interdit... bon, on a parlé d'oasis, c'est pas faux, mais l'oasis, c'est un terme qui exclut le reste. Je crois que justement, l'exclusion, là, elle fonctionne parfaitement.
Je suis tout à fait d'accord. La différence que, en fait, le passage où elle noie tout, en fait, tout devient en quelque sorte un peu homogène, qu'anarchiste et justicier entrent dans un système d'équivalence. Je considère qu'il ne fait pas tellement partie de son œuvre, en fait, de quelques détails sur l'âme des faussaires. Donc, tandis que justement, ce qui est repolarisé en quelque sorte dans son texte, où il y a encore finalement des échanges, où il y a des propriétés en fait qui survivent, on la retrouve précisément dans son texte, et non plus dans le social, où on tente d'éradiquer littéralement tout ce qu'on pourrait appeler... Les irréconciliés, les contradictions, si on devrait parler en termes adorniers. En fait, c'est comme ça que je répondrais.
J'aurais une question, moi, qui rejoindrait peut-être aussi l'autre communication, parce que à partir du moment où la communauté elle n'est plus dans une histoire à venir, que ça peut plus être dans une projection... mais qu'elle est dans une sorte de retrait, est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose qui est de l'ordre d'un passage du temporel, de l'ordre du temporel à l'ordre du spatial, ou est-ce que il y aurait quelque chose aussi d'une réversion du cours du temps, étant donné que la catastrophe est en arrière de nous? Alors,
je crois que en tout cas, du moins si on suit Ingrid jusqu'au bout, la catastrophe se poursuit, elle a encore lieu, en fait, puis ce que dit Anders également, c'est pour ça que je faisais en quelque sorte un parallèle, même après la Deuxième Guerre mondiale, bon, c'était la poursuite de la catastrophe, seulement sous un mode différent, et bon, c'est pour ça qu'il appelait en quelque sorte à se rendre compte de la catastrophe, un peu comme le fait Ingrid. Pour ce qui est du passage du temps à l'espace, on fait le problème, en quelque sorte, avec la temporalité tyrannique de la social-démocratie, c'est qu'il n'y a précisément pas de temps. Je crois que la communication qui va suivre peut-être va traiter un peu de ce sujet avec la question du présentisme, où les modalités temporelles de l'histoire, en fait, ne sont plus articulées, où il y a une omniprésence du présent. de telle sorte que le futur manque cruellement de futur. Je ne sais pas si en quittant finalement ce régime temporel un peu qui piétine en quelque sorte, on rejoint un autre temps ou un autre espace, ou plutôt un mélange, une forme de densité qui mélange à la fois éclat de temps lié lié à un morceau d'espace et à un morceau de temps, et non pas deux modes de lecture qui, une serait topologique et l'autre temporelle. Je ne sais pas si Antonin voulait répondre à cette question également, puisque ça concernait également sa communication.
Eh bien, écoutez, on approche de 17h, hein, c'est l'heure de la pause. Hein. On dit qu'elle ne m'excédera pas un quart d'heure. Hein.